Ismael au cachet oriental. J'ai repris totalement ce que
tu as dit. Moi, j'ai été compagnie au personnage. Je pense qu'en combinant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de choisir Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce premier numéro de Parole aux auditeurs de cette semaine. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les menaces de la balkanisation de la RDC. Dernièrement, l'Église catholique au Congo avait organisé une marche de protestation et de soutien aux victimes de la guerre de l'Est. Et d'autres conventions religieuses et acteurs de la société civile ont eux aussi emboîté les pas aux catholiques en condamnant bien entendu ces menaces de démembrement de la RDC. C'est le sujet qui occupe le cœur du débat aujourd'hui dans cet échange et partage avec comme question comment réagissez-vous face aux attitudes des uns et des autres sur les menaces de balkanisation de la RDC qu'évoque chacun d'eux. Notre standard est déjà ouvert pour des réactions. Appelez-nous au 081 890 6315 et rejoignez-nous également à notre courriel pa@radiocapi.net ou encore déposez vos préoccupations, questions et analyses sur notre page Facebook. Petit Poutou, Comtesse Matouba et William Lungamba réalisent cette émission et Jir Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio Tazi Mahatma Julien Tazi, qui est chef des travaux et doctorant en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Il est notre invité. Bonjour Tazi.
Bonjour monsieur.
Nous commençons avec les auditeurs. Christophe qui est à Kindou. Bonjour Christophe.
Bonjour monsieur.
Voilà. Oui, comment réagissez-vous Christophe?
Merci beaucoup. Je suis très flatté par le sujet très brûlant que vous avez présenté aujourd'hui. Et je suis également content de voir que vous avez à votre plateau un diplomate, un internationaliste de formation. Alors, par rapport au sujet du jour, moi je dis que l'Église catholique et d'autres confessions religieuses, y compris la société civile, en général, font partie de l'opinion publique nationale. C'est contre question, monsieur le journaliste religieux, qui sont contre le démembrement ou la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo, pour un signal fort aux autorités politiques et militaires du pays, qui jouent le jeu du chat et de la souris en même temps, ou pour dire qu'il souffle le chaud et le froid en même temps. On ne peut pas comprendre cela, monsieur le journaliste. Si parmi nos autorités politiques ou militaires, il y a des défenseurs ou les caporaux des intérêts rwandais ou paricochés de certaines firmes multinationales au Congo, par la guerre qu'on nous a imposée tout de suite ici, et moi je qualifie d'une guerre d'agression, mais les confessions religieuses, elles, par la marche que nous avons suivie la fois dernière, à travers tous les pays, interpelle une fois de plus à la conscience de nos autorités, tant politiques et militaires. Et je vous dis, monsieur le journaliste, que cette interpellation, au sens de responsabilité et à la loyauté, se doit faire montre à nos autorités, on ne comprend rien du tout. Tenez, monsieur le journaliste. Si vous suivez bien l'histoire des relations internationales, le professeur est là, il connaît. Mais si vous lisez bien l'histoire des relations internationales, il n'y a que...
Allô, Christophe. Voilà, Christophe est plus en ligne. On va prendre Mathieu qui est à Kinshasa. Bonjour Mathieu.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, Mathieu, comment réagissez-vous?
Bon, c'est prophète Mathieu, parti de Kinshasa, je viens de Kananga. Bon, je vois que ça fait 14 ans, à partir de la balkanisation de la République démocratique du Congo par le Rwanda, qui utilise souvent des marionnettes congolaises pour faire partie des troupes de milices qui arment et font à tout. Alors, le Rwanda, comme c'est bien connu de tous, n'est pas seul derrière lui. Il y a de grandes nations, et j'ai qualifié de grandes puissances du monde, monsieur le journaliste. Ça veut dire que la complicité des autres, autres autorités du place, de la solidité du thèse, qui constitue cette force. Tous ces aventuriers qui constitue cette force. Tous, nous avons envie de pétrole de l'acte Albert. Pourquoi pas de la potentialité de nos ressources minières qui exploitent et importent anarchiquement vers votre pays. Sous les commandes du Rwanda, c'est la raison pour laquelle les Kivu dans son ensemble restent les objectifs, leur objectif principal pour l'amorcement de la balkanisation à l'est du pays. Et si on ne les tient pas compte, bien, ça sera Katanga qui constitue la deuxième étape dans ce sujet de macédonique. Moi, je crois à partir de maintenant faire l'autopsie générale à partir du sommet jusqu'au bas. Au gouvernement, aux politiciens, dans l'armée, la police ainsi qu'au service de sécurité, dans tous les domaines, de savoir qui est réellement congolais et ce qui ne l'est pas. Il faut laisser les Congolais se diriger les affaires de l'État. Pour cet actuel du Rwanda, l'action militaire doit être vraiment prioritaire.
Voilà, donc selon vous, nous résumons, hein, Mathieu.
Notre chambre de parlement opte pour la guerre. C'est déjà une guerre. Oui, oui. Le Rwanda est en train de nous maintenir ici. Nous ne pouvons pas rester calme. Moi, je suis le président de la première fois, c'est-à-dire Association nationale de prospect de la société de la ville de Montréal.
Voilà, donc, oui, Mathieu, je crois que nous allons résumer, selon vous, l'indice qui prouve à suffisance qu'il y a menace de balkanisation. C'est cette exploitation des minéraux qui constitue aujourd'hui un appât pour les multinationales et qui ne laisseront pas, en tout cas, qui ne laisseront pas en fait des choses évoluer dans le sens positif de la RDC. Donc ils penseront à tout prix à démembrer ou à balkaniser le pays à leur profit. Donc ça, c'est selon vous et par rapport à ce que vous venez de dire, 14 ans déjà, donc vous l'avez dit en des termes clairs, donc 14 ans que vous avez assisté à ces tentatives de balkanisation, bien entendu avec cet indice de l'exploitation minière. Merci Mathieu, et nous avons confiance à Kinshasa. Bonjour, confiance.
Bonjour. Vous appréciez la réussite de la manifestation parce que l'Église catholique a vraiment montré l'exemple de ce qui doit être comme rôle de l'Église dans la vie de la nation, qui est celui de la moralisation ou de la conscientisation. Mais j'ai aussi aimé une chose, c'est de voir que pour la première fois, une manifestation comme ça de telle envergure a été autorisée. C'est parce qu'elle est en faveur de ceux qui dirigent, qui se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que associer le peuple. Bon, on associe le peuple quand on veut avoir la faveur du peuple. Mais s'il y a des dossiers qui sont liés aussi au peuple, à l'avantage du peuple, on ne le fait pas. Donc, je vous conseille.
Oui, allons droit au but, confiant.
La seule chose, oui.
Oui, allons droit au but, aujourd'hui.
La seule façon, la seule chose dont un ennemi peut avoir peur, c'est la prise de conscience. Moi, j'ai vraiment aimé qu'une fois, on prenne conscience. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer si la même conscience était prise.
Donc, selon vous, confiance.
Les gens qui nous dirigent,
oui,
ils vont avoir peur de gérer certains dossiers.
Confiance,
selon vous. Un dossier top secret ou un dossier qu'on traitait à huis clos au Parlement, aujourd'hui, selon le chef de l'État, n'a été qu'un secret des policiers.
Voilà, alors, selon vous, confiance, si on retient bien.
Il y a des choses que nous pouvons faire. La liberté, on ne la donne pas à quelqu'un, il faut se battre pour ça.
Voilà, alors selon vous, confiance, quels sont les indices de menace de balkanisation de l'RDC selon vous? Parce qu'il y a votre prédécesseur, Mathieu, qui a parlé de l'exploitation minière dans la partie Est, qui aujourd'hui constitue quand même une convoitise. Et là, les multinationales ne vont pas laisser cette partie comme ça profiter, disons, à la RDC. Ils vont exploiter, en tout cas, abondamment les minéraux. C'est selon Mathieu. Est-ce que vous avez d'autres indices?
Oui, l'indice en dehors de cette exploitation, ce sont les signes que nous voyons. Vous voyez, pour le même nombre de tués, le même nombre de problèmes et de viols, dans d'autres pays, ça n'aurait plus que quelques minutes ou quelques heures et le Conseil de sécurité aurait sensibilisé tout le monde. Mais puisqu'il s'agit du Congo, qu'est-ce qu'on fait? La politique, c'est quoi? On affaiblit les dirigeants congolais. Hein, et on les affaiblit parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. On affaiblit l'armée. On sait que vous n'allez rien faire. À ces indices-là, ce sont des choses vraiment planifiées.
Merci beaucoup, confiance, d'avoir appelé des Kinshasa 081 890 43 39 pour les appels.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Tavi Matma Julien, vous êtes chef des travaux et doctorant en relations internationales à l'université de Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. D'abord un commentaire par rapport au point de vue des uns et des autres, au point de vue des auditeurs.
Merci pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de passer à vos antennes. Écoutez, la situation du Congo, pour être bien analysée, doit partir de certaines évidences. Premièrement, il faut éviter la passion. Il faut traiter les sujets avec beaucoup de rationalité. Deuxièmement, il faut éviter la subjectivité. Je suis étonné parce que certaines personnes sont surprises de la situation dans laquelle les Congos se trouvent aujourd'hui. Mais cela ne peut pas surprendre. Souvenez-vous de la prophétie de Lumumba. Lumumba dit « La balkanisation du Congo, c'est demain ». Quelle est la personne qui s'en est rendue compte? Aujourd'hui, on est surpris. Deuxième élément, la balkanisation du Congo ne date pas aujourd'hui. Souvenez-vous que l'histoire politique de ce pays se répète. Nous allons de conférence en conférence, nous irons des guerres d'agression à d'autres guerres d'agression. En fait, pour me résumer, les auditeurs ont raison de penser que ce que le catholique en fait est une chose exceptionnellement importante parce qu'ils ont tenté de conscientiser les citoyens congolais, de conscientiser tous ceux qui pensent que le Congo est notre mère patrie, tous ceux qui ont particulièrement un esprit attaché à la République. Parce que la nationalité, écoutez, c'est un papier qu'on présenterait, mais la conscience d'appartenir à la République, c'est plus que ce papier. Alors, lorsque les catholiques, en tout cas, il faut dire félicitations, la société civile, ont prouvé au monde que le Congo, qui est un Kimpangala, souvenez-vous, il y a la sagesse Congo qui dit ici, Wakonda, Mboma, Kipangala, ça veut dire le Congo est considéré comme étant un état de construction inachevé. Alors, lorsque la société civile tente de mettre tout le monde d'accord autour d'un idéal républicain, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut impérativement encourager.
Oui, mais c'est vrai que plusieurs voix s'élèvent actuellement pour dénoncer une quelconque menace de balkanisation, mais c'est sur quel indice tablent les uns et les autres?
Écoutez, il y a plusieurs indices, il faut le relever. Sur le plan national, sur le plan international. À ma qualité d'internationaliste, je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Premièrement, regardez la nature du Congo. La nature du Congo est une nature particulière. Le Congo est un État multinational. Le Congo est un État multiculturel. Le Congo est un pays, je ne peux pas revenir sur le Kimpangala. Ça veut dire qu'il existe des ethnies, des populations composites qui n'ont rien entre eux sur le plan culturel. Ce qu'ils ont en commun, on peut dire, c'est cette valeur inexplicable du vouloir vivre collectif. Faudrait-il encore le déterminer, ce vouloir vivre collectif-là? Ça, c'est un indice important de balkanisation. Il suffit qu'on enlève le feu et puis tout est parti. Deuxièmement, c'est ce que les autorités, dans le temps, il faut penser que le gouvernement actuel, qui fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, est dépourvu. Mais seulement, ce que les autorités ont fait dans le temps constituent des indices importants.
Mais le géopolitisme actuellement, est-ce que ça ne peut pas non plus être un indice? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, même pour accéder au pouvoir en RDC, c'est un problème de clivage, c'est un problème de géopolitique, c'est un problème. Mais tout ça, est-ce que ça ne peut pas non plus constituer un indice?
Je ne sais pas ce que vous entendez par géopolitique, je ne veux pas entrer dedans, mais retenez. Prenez quelque chose de très important. La forme actuelle de la République, c'est laquelle? La forme de l'État congolais. Pardon, la forme de l'État congolais, c'est laquelle? C'est soit sur le plan de forme, un État unitaire, et sur le plan de fond, un État à caractère fédéral. Pourquoi cela? Pourquoi mettre les deux ensemble? Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'on irait, on associerait, premièrement, la forme de l'État composite, deuxièmement, la décentralisation, troisièmement, les dépiaçages de la République. Ce sont les indices importants qu'il faut mettre en compte qui justifieraient la balkanisation. Je vais vous détourner à vous dire, s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose de très important pour moi. Écoutez, le Congo tel qu'il est là,
n'a pas une vision internationaliste. La vision internationaliste, écoutez-moi bien aujourd'hui, c'est que le Congo, notre pays, ce qu'il y a, un principe important, qu'on appelle le principe Wilsonien des nationalités, qui a déconstruit l'Empire austro-hongrois, qui a déconstruit l'Empire ottoman, qui a déconstruit la Fédération de la Yougoslavie, qui vient de déconstruire le Soudan. Alors, c'est un principe qui voudrait qu'on puisse créer des États monoculturels. Et la Constitution de 2006 a tenté de créer des provinces monoculturelles. Prenez les Sankourou. Donc, ça veut dire une province qui n'est composée qu'une seule ethnie. Ce sont là des indices.
Oui, oui, là c'est sur le plan interne, la deuxième indice nationale. On va revenir sur le deuxième indice international. Mais pour accorder la parole à nos auditeurs qui sont déjà en ligne, hein, ils sont nombreux et qui tiennent vraiment à réagir par rapport d'ailleurs à vos propos. Gauthier qui est à Kananga, Jean-Pierre à Issiro, docteur Richard à Kikata, à tous, nous disons bienvenue. Gauthier, vous êtes à Kananga. Bonjour Gauthier.
Bonjour monsieur Schuller, je salue tous les invités de la radio papier.
Oui, Gauthier, comment réagissez-vous?
En tout cas, monsieur Schuller, pour une fois quand même, nous avons vu le gouvernement appuyer l'action du peuple. C'est parce que l'intérêt qui est le nôtre les a rejoints. Et puis tout ça, lorsque nous recteurons une marche où le peuple veut s'annoncer pour un dossier qui ne tourne pas, le gouvernement a toujours barricadé sans qu'on réprime. Mais merci quand même pour une fois, nous avons suivi le ministre de l'Information appuyer l'action. Mais c'est juin, c'est un dossier trop spécial. Il faudrait que le peuple congolais lève le son. Nous avons peur, comme l'analyste qui est au studio, qui le salue bien, vient de le dire. Mais le Soudan, il n'y a pas plus longtemps, nous avons dit le Soudan devait être tué. Donc c'est déjà un danger qui est en train de quitter notre pays, par le fait que le dirigeant que nous avons au Congo ne sont pas patriotes congolais, mais c'est juin. Nous n'avons pas de nationalistes. Tout ce qui se fait à l'Est est sous complicité des sections de Kinshasa. Pour preuve, on se rend compte que notre armée, notre gouvernement a des infiltrés. Tant qu'on ne mettra pas, on ne cherche pas à trouver la place ici, ce que l'église à Kinshasa, nous allons beau crier sur le messager, etc. Et de toute façon, ce qui s'est passé par la société civile et les confessions religieuses, une action à saluer, mais c'est pas qu'il se mette ici. C'est une action qui nous défend de tenir jusqu'au moment opportun, pour éviter la suite nous soit favorable.
Merci beaucoup.
Et il est regrettable que notre armée est appuyée par la MONUSCO, mais je me demande, un groupe armé, M23, qui est né en France, c'est une armée nationale. C'est-à-dire que ça ne va pas. C'est ça,
merci beaucoup. Pour vous,
les Congolais,
voilà.
L'ennemi qui convoie nos ressources naturelles.
Oui, Gauthier, je crois que vous résumez, hein, pour vous, l'indice qui prouve à suffisance que la menace de balkanisation, c'est au fait que la non-opérationnalité de notre armée, qui n'est pas efficace sur le terrain par rapport à M23. Merci, Gauthier, d'avoir apporté cette contribution et surtout d'avoir donné cet indice. Jean-Pierre qui est à Issiro, bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Paris.
Et comment réagissez-vous? Selon vous, quels sont les indices qui prouvent à ce disant qu'il y a menace de balkanisation et comment on peut les contourner?
Oui, permettez-moi d'abord de féliciter l'Église catholique et tous les autres églises puisqu'ils ont ils ont donné cette opportunité-là de faire savoir à tous les Congolais quelque chose que nous apprenons déjà. Et ça a permis aussi que tous les Congolais puissent prendre conscience que nous sommes agressés, qu'il y a un plan pour la balkanisation de notre pays. Et les indices que nous voulons montrer ici, nous voulons d'abord, pour la première fois, dire que les Rwandais, depuis lors, ont ces plans-là. Et ça se remarque comment? Vous voyez, les militaires rwandais qui étaient en République démocratique du Congo à travers les groupes qu'ils ont soutenus, ils ont démarré dans la partie du Nord Kivu et dans la partie du Sud Kivu. Ils ont refusé de faire, lorsqu'on a demandé de faire les brassages de tous les militaires au Congo, et lorsqu'on a demandé de prendre tous les militaires, de les mettre ensemble pour qu'on puisse changer les gens là où ils étaient, et ils ont refusé, ils ont voulu rester là-bas. Ils ont proposé un autre système pour qu'ils puissent démarrer là-bas. Vous voyez, ils avaient donc un plan bien déterminé, un plan bien fait pour qu'ils puissent réaliser un jour leur plan. Alors, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont
Ils vont rester là et après, pendant que nous sommes entrés, après les élections, ils ont créé le CNDP. Et le CNDP va réclamer des choses de manière à ce qu'ils puissent rester toujours là-bas, dans la partie de, avec les frontières, avec les Rwandais. Et après, ils vont demander à ce qu'on puisse leur donner des grâces. Notre gouvernement, comme nous n'avons pas de l'armée, comme nous n'avons pas de la force, nous continuons à accepter leurs accords. Et au fur et à mesure que nous continuerons à accepter l'accord avec les gens, vous allez voir en tout cas, ils vont toujours demeurer, ils vont refuser totalement de sortir dans cette partie des pays, puisqu'ils ont un plan du Rwanda. Et ils ne sont pas des Congolais. La majorité de ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ce sont des étrangers qui se trouvent dans ces groupes-là. Et ils vont répondre aux aspirations de leur pays d'origine. La preuve en est quoi? Vous voyez avec Laurent Kunda, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laurent Kunda a fait des crimes au Congo. Ils vont dire qu'on va arrêter Laurent Kunda de ce qu'on s'agente à Montpellier. Laurent Kunda rentre, réplique et il se met au Rwanda pour qu'on puisse changer de version. Nous avions oublié que nous étions toujours agressés. Et maintenant, Bosco Ntaganda revient encore avec les mêmes jeux.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà, nous retenons deux choses. Vous avez parlé de l'indice de l'échec du brassage qui a été organisé, qui a donné d'ailleurs naissance au CNDP, et puis finalement, les M23 qui s'en étaient suivis. La présence des étrangers de l'armée, ça constitue aussi des indices hein, pour déstabiliser la RDC et démembrer le pays. Merci, Jean-Pierre, d'avoir donné cette contribution. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour. J.S. Bonjour aussi à l'invité et bonjour à tout le monde.
Oui, docteur Richard, comment allez-vous? Oui, allez-y, docteur Richard.
Oui, voici ma modeste contribution. Les indices de la balkanisation sont les suivants. Premièrement, cette armée mono-ethnique, c'est, je ne sais pas, des Bandibou, des Bantando, je crois qu'il n'y en a pas en RDC, qui refusent de quitter le territoire des Bandibou, des Bantando, des Manyanga ou des Baluba. Ça, c'est déjà un indice. Même si les gens mâchent le mot, ils ne veulent pas parler de ça, on suspend même les directeurs des radios, mais ça, c'est un indice. Hein? Ces Bandibou, ces Bantando-là qui ne veulent pas quitter la contrée des Bantando, des Bandibou. Deuxièmement, on a dit que Lumumba en avait dit au lendemain de l'indépendance. Ça, c'est un indice. Deuxièmement, troisièmement, Mouzé Laurent Désiré Kabila nous avait dit, le feu président, que, je l'imite bien, ces gens-là m'ont même demandé de leur couper le pays. Il a dit ça. Il n'a pas menti, c'était vrai. Et troisième indice, comment est-ce qu'un État peut dire à un autre, ce qui se passe chez vous là-bas, c'est un problème de mésentente entre le gouvernement et les autres. Je vais vous aider. Quelle prétention le Rwanda a pour aider le Congo à arranger ses problèmes d'intérêt. C'est déjà des indices. Troisièmement, et quatrièmement, James Kabarebe, quand il était ici, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait qui a été dénoncé par le fameux Laurent Désiré Kabila? Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Et nous avons vu même des Congolais, quand Moussé avait dit « rentrez chez vous », et ces gens-là s'étaient arrangés pour suivre cette armée-là. Ce sont ces infiltrés-là. Pourtant, comment est-ce que moi, si je suis Louba, on me dit les Loubas sont en Angola aussi, et je me sens plus angolais que congolais. Ça, c'est pas normal, ça. Ok? Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Chanter autrement le debout congolais. Ça ne sera plus par la paix, mais nous devons chanter ça pour la paix. C'est-à-dire, nous devons porter les armes, aller au front, bouter l'ennemi hors du territoire national. Le droit ne joue pas pour le Congolais.
Voilà, docteur Richard.
Les étrangers.
Voilà, merci docteur Richard d'avoir donné cet indice hein, qui, selon vous, menace, constitue des menaces de balkanisation. Voilà, nous avons Ismaël qui est à Lubumbashi et on prendra également Jadot avant d'accorder la parole. Donc on va d'abord piser directement la première série des auditeurs avec Ismaël qui est à Lubumbashi et Jadot à Lubero. Bonjour Ismaël.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Papi.
Voilà, Ismaël, comment réagissez-vous par rapport aux attitudes des uns et des autres, et surtout l'Église catholique qui a levé les tons pour dire non aux menaces de balkanisation du pays, suivies par d'autres confessions religieuses ainsi que des acteurs de la société civile?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
mais les indices de la balkanisation semblent souvent négligés. Je demanderais d'abord à l'invité ces trois questions seulement que je pourrais aussi poser, avoir aussi une petite répétition. À savoir l'entrée du musée Laurent Désiré Kabila a pu solliciter le militaire rwandais. Après cela, la force armée ou la force armée congolaise se trouvait au Congo, c'est-à-dire à Kamina, la force supérieure. Et aujourd'hui, cette force n'est plus au Congo, c'est au Rwanda. Et aujourd'hui, les tuyaux de l'Est, de la République démocratique du Congo en général, c'est 6 millions de personnes qui ont entrepassé leur vie. Je demanderai à l'invité qu'est-ce qui est fait en sorte à ce que cette force soit déplacée de la République démocratique du Congo et que ce soit implanté en Rwanda. Une autre indice, et puis, quand la force était ici en RDC, combien de fois la RDC a pu attaquer aussi au Rwanda? Et je demanderai aussi à ce que l'Église catholique a pu faire comme, fourni comme effort. Je le dis sincèrement, merci, hein. Mais dans le sens de la Bible, selon Jean chapitre 5 de verset 19, le vrai chrétien souvent ne devait pas faire partie de la politique. Nos prières, soit nos actions dirigées vers notre République qui a envie de nos frères qui souffrent, soit qui subissent des difficultés d'une manière ou d'une autre, ça dépendra aussi de la complicité politique et une mauvaise volonté, une mauvaise gestion de ces genres de situations. Alors, pour moi, je demanderais qu'à l'invité, tu expliquer aussi la situation et la vérité directe face aux problèmes qui surgissent souvent en République démocratique du Congo. Et je dis, je vous en remercie.
Merci beaucoup, Israël. On termine cette première série des auditeurs avec Jadot, qui est à Lubero. Bonjour, Jadot.
Bonjour. Jerry Lungembo, bonjour tous les hostilités de la radio au Cassis, je suis Jago, je suis Mankere Kalitou, qui a question de l'ouvert province du Haut-Sigo. Et compte tenu de la question du jour, c'est une très grande mobilisation à encourager et autant rendre active la théorie apprise à l'école dans l'éducation physique où on appelle aux gens au stade patriotique. C'est-à-dire cette mobilisation des évêques catholiques. C'est une mobilisation qui exprime la volonté des dirigeants et des églises de savoir que lorsque le pays est en danger, il faut mobiliser le peuple à se prendre à charge. Je le trouve que, tout comme le Mirabeau, qui avait mobilisé la crème intellectuelle française lorsque la France était sous un régime apolitique. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Vous savez, ceux qui souffrent sont les chrétiens. Et lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a, ça ne va pas, lorsque le pays sera balkanisé, ceux qui seront les grands perdants, ça sera les clergés catholiques. Je voudrais que nous puissions tirer des exemples de l'histoire. Nous ne devons pas nous arrêter à cette mobilisation, cette manifestation, parce que la situation semble même pas changer. Et nous devons savoir qui sont les
voilà, voilà, il faudrait le rappeler à Jadot. Merci Jadot.
Alors, à Tunisa,
oui, allez-y rapidement, parce qu'on va accorder la parole à notre invité également. Oui, allez-y, en 20 secondes.
Une question, parce que nous avons des représentants ici, des élus. Lorsqu'ils font la restitution, ils nous disent que le chef de l'État les a réunis et a dit que le Congo peut aller dans le nord du Congo. Il a pris l'exemple du Sénégal avec le Casamance. Le Sénégal est en train d'évoluer dans le Casamance. Alors, ça nous inquiète. Est-ce que nous demandons, est-ce qu'il n'y a pas une forte complicité au sommet de l'État? Si le président de la République me dit le Nord-Kivu et ne semble pas ménager beaucoup d'efforts pour libérer le Nord-Kivu, alors nous ne savons pas.
Voilà, merci. Merci Jadot d'avoir apporté cette contribution. C'est vrai, nous allons le rappeler, comme vous l'avez évoqué dans vos propos, au niveau de l'Église catholique, il y a quand même des évêques qui ont laissé leur peau par rapport à cette question. Et à chaque fois qu'ils dénonçaient le début d'une guerre, nous avons pu ne pas les citer. Il y a Monseigneur Mouziroi, Catalico, et tant d'autres que nous n'avons pas de nom, mais qui n'ont pas peut-être laissé leur peau. Nous allons voir avec notre invité qui est dans ce studio, Tazi Mahatma Julien. Vous êtes chef des travaux et doctorant en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi d'ailleurs les auditeurs qui ont évoqué quelques indices. Il y a Jean-Pierre qui a parlé du Rwanda, il y a l'échec du brassage, la présence des étrangers, il y a Docteur Richard qui est revenu sur l'armée monolithique que nous n'avons pas. C'est vrai, il revient toujours sur l'aspect de l'existence des personnes étrangères dans notre armée. Il y a Ismaël qui a posé d'ailleurs une question sur la base de Tamina. Aujourd'hui, dit, je ne sais pas qu'en est-il. Et puis, bon, finalement, Jadot a intervient avec des réactions qui le poussent à vous poser la question, parce que vous venez de parler tantôt de causes sur le plan national. Vous avez évoqué la Constitution qui parle de la forme de l'État, la forme unitaire, et également, on évoque l'aspect fédéraliste dans cette Constitution. Est-ce qu'à ce moment, on ne peut pas parler déjà de la révision de la Constitution, qui pourrait être une démarche pour contrer cette menace de balkanisation?
Oui, c'est peut-être l'une des voies de solutions, mais il faut pas se limiter à la seule forme. Le problème, la question est tellement importante que l'on ne peut pas se limiter à la forme. Il faut pousser la réflexion jusqu'au fond. En fait, je vais revenir sur certaines réflexions des auditeurs, notamment sur l'armée monolithique ou monoethnique. Il est impossible au Congo d'avoir une armée monoethnique, autant plus que le Congo, par sa nature, est un État multiculturel, pluriethnique, multinational. Donc, avoir une armée monoethnique voudrait dire revenir au principe où il serait une nationalité, voudrait également dire qu'il faut impérativement balkaniser le pays. En fait, c'est très difficile. Il faudrait plutôt avoir une nouvelle armée. Pensez au recrutement par rapport aux provinces. Et au lieu d'aller à certains programmes dangereux comme le brassage, comme l'intégration militaire, ainsi de suite, qui n'ont fait qu'envenimer la situation, il faut reconstruire l'armée et recruter en formant les jeunes gens avec un idéal fort de la République. Deuxièmement, il y a quelque chose de très important que l'auditeur a souligné, notamment chanter autrement des vous congolais. Ça, c'est exceptionnellement important. Regardez les pactes. L'autre hymne national dit « Debout congolais, unis par les forts, unis par les sorts pour l'indépendance ». Ça veut dire que le pacte qui unit tous les Congolais, c'est limite à l'indépendance. Il faut refaire le pacte social. Il faudrait intégrer certains éléments qui nous poussent au développement, qui nous poussent à la conscience nationale du volume collectif, qui nous poussent à l'acceptation. Écoutez-moi, M. Gien. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez, vous êtes du Bas-Congo, vous allez à l'Est, on vous appelle Kouya-Kouya. Vous comprenez ça?
Si vous allez, ce sont là des indices.
Oui, oui. Si vous allez au Bas-Congo pendant un moment, on vous appelle Mundisidi. Vous comprenez ça? Certaines personnes de grande moralité, Sangani ont même dit que chaque rivière avait ses crocodiles pour dire à ceux qui ne sont pas là d'aller ailleurs. Vous savez ce que ça veut dire, un Kouya-Kouya, un Mundisidi? Ça veut dire un étranger. Moi, je suis congolais.
Et curieusement, c'est ce genre de stéréotypes, ce genre de considérations ne sont que de la bouche des Congolais.
Très malheureusement.
Des Congolais, voilà.
Très malheureusement.
C'est comme si nous donnons raison aujourd'hui à certains auditeurs qui ont parlé d'une certaine complicité à l'interne.
Je ne veux pas aller dans ce sens-là, parce que j'évite la réception par procuration. C'est très dangereux. Elle a dit à telle enseigne qu'on ne sait pas nous-mêmes ce que nous voulons de ce pays. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut changer les pactes sociaux contenus dans notre hymne national. Au lieu de se limiter au seul effort pour l'indépendance, il faut intégrer d'autres efforts, notamment le développement, notamment l'amour exagéré de la patrie.
Oui, il s'agit, quels seraient alors, selon les internationalistes comme vous, les premières causes de la balkanisation en général, en tout cas sur le plan de relations internationales, les premières causes de la balkanisation, et nous avons vu quand même quelques indices que les auditeurs ont donnés pour le cas spécifique de la RDC. Mais en général, vous avez évoqué l'état du Soudan, de la Yougoslavie, quand est-ce qu'intervient la balkanisation et pour quel intérêt?
En fait, généralement, lorsqu'on consulte l'histoire universelle, on se rend compte que sont balkanisés tous les grands espaces étatiques. Et ces espaces étatiques sont généralement multiculturels, sont généralement multinationaux, ça veut dire un État composé de plusieurs nations. Lorsque vous voyez l'Empire austro-hongrois, c'était une constellation de plusieurs nations. Si vous voyez l'Empire ottoman, c'était une constellation de plusieurs nations. Si vous voyez la Yougoslavie, de triste mémoire, c'était également une constellation de plusieurs nations.
Le Soudan, avec son immense
la première chose, ne vous limitez pas au Soudan, mais allez au plus profond de vous-même, voyez l'Algérie avec la situation de la Kabylie. Voyez également le Nigeria avec toute la situation du Kano, de l'état du Kano. Ça veut dire que lorsque une seule ethnie brime, domine sur les autres, lorsque les autres ne se sentent pas
intéressés,
la frustration, vous avez les injustices. Vous avez la domination linguistique, la domination culturelle, ainsi de suite. C'est une cause très fâcheuse de la balkanisation. Revenez sur le cas du Congo, on se dit que la vraie réalité du Congo, c'est sa nature. Quelle nature du Congo? Je reviens pour vous dire, Nsi Wakonda Mboma, Kimpangala. Ça veut dire, le vrai problème du Congo, c'est que le Congo est un état inachevé. C'est que le Congo, notre Congo à nous, est un état multinational. Alors, lorsque toutes les nations ne se sentent pas intégrées sur un idéal politique, c'est là le danger. Le monde a fait cela. Oui, il a tenté. Hein? Kassavou a tenté. Laurent Désiré Kabila a tenté. Il y a encore des savants qu'on ne peut pas lire aujourd'hui. Selon parce qu'ils s'appellent tel.
Voilà, on va prendre Augustin qui est à Lubumbashi et Mamakatu à Ouvira. Ainsi que Marcel à Lubumbashi. Nous verrons aussi l'abbé Santoudi pourra nous rejoindre aussi dans ce studio pour, disons, en ligne pour intervenir. Augustin, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue d'abord l'invité de la radio Fati et aussi les experts de la radio Fati. Par rapport à ça, monsieur le journaliste, je suis d'abord très content d'avoir entendu le sujet que vous avez évoqué aujourd'hui. Je salue aussi les efforts de l'Église catholique qui sont et d'autres confesseurs religieux qui sont en train parce que.
Oui, Augustin, si vous pouvez dynamiser un peu votre voix. On s'appelle le temps parce que là, on vous faisait appel.
Je ne comprends pas bien, monsieur le journaliste.
Voilà, je disais tantôt aussi, vous pouvez dynamiser un peu votre voix, parce que c'est à peine qu'on vous saisit.
Ah oui, d'accord. Ah oui, je disais que c'est partir de l'histoire pour comprendre la situation de balkanisation. Si aujourd'hui, nous prenons le cas du Congo, comme ce que j'ai depuis là à notre invité, il dit que non, ce qui fait que le Congo soit pas fortement menacé, c'est sa nature. Ce n'est pas le Congo qui est le premier pays à avoir une nature énorme dans ce monde. Prenons le cas du Brésil. Au Brésil, on trouve la première forêt, la forêt de l'Amazonie. C'est après que c'est la Guinée centrale. Vous savez, monsieur le journaliste, si la France n'avait pas imposé au président congolais l'entrée de FDL au Congo, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de prendre de l'organisation dans le pays. Parce que l'arrivée de FDL au Congo, on considère aujourd'hui comme une bombe à retardement au gouvernement de Kigali, ce qui fait de ce côté les troupes rwandaises qui ne sortent pas au Congo. Parce que si on laissait FDL au Congo un jour, FDL prendrait la décision de rentrer un jour au Rwanda. Tant que monsieur le journaliste. Si le Congolais et le gouvernement congolais étaient responsables, ils devaient donner la décision, ils devaient imposer aux Rwandais de dire que non, voilà, ils devaient négocier avec vos gens, comme si le cas du FDL.
Voilà, donc selon vous, l'indice qui va dans le sens de menaces de la balkanisation, c'est la présence des FDLR sur les sols congolais. Merci Augustin d'avoir appelé. Makati, vous êtes à Ouvira. C'est toujours un plaisir d'avoir une femme au nombre des auditeurs qui interviennent. Makati, vous êtes avec nous, bonjour. Oui, Madame Kati, vous êtes avec nous à Ouvira, bonjour.
Bonjour Radio Kati. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment de ce sujet si brillant que vous avez toujours abordé.
Merci.
Alors, quant à moi, l'indice qui est là, c'est que nous avons d'abord la présence
d'un militaire
rwandais dans l'armée congolaise.
S'il vous plaît, Maman Cathy, est-ce que vous pouvez éteindre un peu votre poste récepteur parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne. Comme ça, on peut s'écouter par téléphone et puis on va bien s'échanger et puis ça sera quand même agréable. Oui, allez-y.
Oui. La présence des militaires rwandais dans l'armée congolaise, ça c'est l'infiltration qui manifeste une indice très capitale qui n'est pas à négliger. Là, nous voyons des militaires rwandais qui sont armés jusqu'aux dents, qui ont occupé tout l'Est, Et les militaires congolais de pauvres qui ne savent rien dire. Le Rwandais est capable de tuer même 10, 20 personnes et personne ne le poursuivra. Pourquoi pas n'avons-nous pas de problème de ce qui concerne la balkanisation avec l'Ouganda par exemple, la République Centrafricaine, le Sud du Soudan par exemple, la Tanzanie, c'est un avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda réclame dans notre pays? Qu'est-ce qui a été signé comme pacte ou alliance contre ce qui réclamait la portion de notre pays? C'est par rapport à quoi? Parce que nous avons commencé d'abord avec Kukunda, d'abord avec Kabari, à l'entrée de l'Afrique. Et maintenant, après Kabaré, c'est Kunda. Après Kunda, c'est Tanganda, maintenant, qui terrorise avec le M23 partout. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas arrêter ces choses? Parce que c'est ce qui dit que la nation congolaise est orpheline, elle n'a pas de peine qui pourrait intervenir en sa faveur. En tout cas, permettez-moi de le dire, quant à l'intégrité territoriale dans notre pays, la RDC, c'est un passoire du Rwandais, et personne n'intervient comme responsable qui pourrait défendre les Congolais. Nous sommes vraiment très, vraiment, à tout, je ne sais pas, le terme même me manque, le Congolais souffre, jusqu'à quel point il ne sait même dire aucun mot au devant d'un Rwandais qui n'a même pas le niveau de type par rapport à un Congolais, par exemple.
Voilà,
vous voyez des petits-enfants qui sont là et qui font ce qu'ils veulent. Bon, ça fait très mal.
Merci, madame.
Ça fait très, très, très mal. Nous n'avons pas un parent, un père à la tête du pays responsable qui pourra défendre le Congolais.
Madame Cathy, merci d'avoir appelé d'Ouvira. Marcel, vous êtes à Lubumbashi et Martin à Ouvira également. Martin, vous êtes avec nous. Bonjour, Martin.
Bonjour, monsieur.
Oui,
merci pour m'avoir associé aussi à l'émission d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi dire ceci. Vous savez, avec la situation de l'Est, c'est aussi compliqué. Ça ne cesse de continuer. La MONUSCO a intervenu depuis combien, ils ont accordé des assistances humanitaires aux populations, mais ça continue toujours. Mais l'autre fois, j'ai suivi très récit, l'interview de l'ancien général des armées, Moumena, qui était au Brésil. Il a dit que c'est le gouvernement en place qui a grandement ouvert les portes au 5e 23 pour exploiter les minerais qui sont au Congo. Donc c'est le gouvernement qui est à la base de toutes ces guerres-là à l'est de notre pays. Maintenant, je voudrais demander qu'est-ce qui fait réagir par rapport à ça? Qu'est-ce qui dit par rapport à ça? Parce que la situation ne cesse de continuer là-bas à l'est.
Merci beaucoup, Martel. Martin, vous êtes en Ouvira. Bonjour, Martin.
Bonjour, bonjour.
Voilà, Martin, comment vous réagissez?
J'ai l'impression que les gens ne suivent pas l'intervenant, c'est-à-dire l'invité. Il vient de donner là l'indice principal. Il a dit dès qu'il y a mécontentement. Dans un pays où il y a plusieurs sensibilités, comme ça, dès qu'il y a mécontentement, ça c'est la menace. Et ensuite, cette histoire de menace, c'était pour l'indépendance. Le monde en a parlé. Lorsque Kabila le Père avançait, Mobutu a parlé de balkanisation. Lorsque RCD est venu, Kabila le Père a parlé aujourd'hui de balkanisation. Finalement, qu'on nous dise qui est à ce plan-là et pourquoi pour que nous sachions, nous, Congolais, nous mettre en pêche avec qui est notre ennemi réellement. Aujourd'hui, on pense que le Rwanda, mais demain, ce sera peut-être que l'Angola. On a vu quelques mois passés, que l'Angola voulait aussi, avait aussi des intentions à prendre une partie là-bas. Partout, nous sommes menacés. On nous dit exactement qui fait le plan. Hier, Taganda, dont on accuse aujourd'hui. Quelqu'un nous avait dit que pour la paix au Congo, il faut que Taganda soit là. Est-ce que la marche que nous, les Français, nous avons organisée, nous nous adressions au gouvernement, nous nous adressions au Rwandais, nous nous sommes adressés à qui, finalement? Cette histoire de communauté internationale, c'est... On ne sait pas qui est comme communauté internationale. C'est les Américains, les Français, qu'on leur dise clairement, au lieu de crier, nous crions, c'est bien, je suis content d'avoir marché, mais maintenant je me demande à qui me suis-je adressé.
Merci beaucoup, Martin. Le temps d'accorder la parole à notre invité avant de prendre encore Sylvain. Nous signalons d'ailleurs qu'il y a un avocat international. Nous sommes là en 98, lorsque la guerre, était à jour au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Mario Spang disait, je cite, que le Congolais, en fait, les conflits congolais résultaient du fait que la destruction du tissu économique du pays avait dénué les liens habilement tissés à Berlin. Est-ce que Tadi, vous partagez cet avis de cette haute personnalité scientifique qui parlait déjà en 98, qui disait le Congo, le conflit congolais résultait du fait que la destruction du tissu économique du pays avait dénué les liens habilement tissés à Berlin?
je ne peux pas prendre le risque de l'appuyer, d'autant plus que Berlin a balkanisé la Chine. Berlin a balkanisé ce qui se constitue comme étant un État national.
Et ça fait des temps que les Américains ne sont pas retrouvés aujourd'hui. Le multinational travaille.
Tout à fait. Les gens ont tendance à évoquer les conséquences à la place des causes. Et là, c'est l'exploitation des richesses du Congo. C'est une conséquence de l'esprit humain de l'État. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses qui peuvent étonner. Écoutez, je veux qu'on réfléchisse. Sans passion, nous sommes Congolais, et c'est pendant les grandes crises que les grandes réflexions doivent être bâties pour l'avenir. Parce qu'on ne peut pas réfléchir pour rien. Est-ce qu'on peut me dire, avec exactitude aujourd'hui, que l'État congolais existe? Je peux vous étonner. Si l'État congolais existait, alors c'est sûr uniquement sur le plan structurel.
Mais l'État repose quand même sur l'administration, que je sache.
Justement. Laissez-moi continuer.
Allez-y.
Est-ce que l'État congolais existe? S'il existe, alors ce n'est pas structurel. Ça veut dire un gouvernement, une autorité, une population organisée sur un impérium en termes de pouvoir unique. Ok? Mais sur le plan fonctionnel.
L'administration qui doit fonctionner.
Le plan fonctionnel, ça veut dire est-ce que le Congo a rempli toutes les caractéristiques régaliennes d'un État? Ça veut dire protéger l'environnement, assurer le développement, défendre l'intégrité territoriale, une armée républicaine assurée, ainsi de suite. C'est là le vrai problème. Alors, lorsque une armée n'existe plus, un État n'assure plus son autorité sur l'étendue du territoire, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle le foisonnement de souveraineté, de substitution. Il y a cette histoire des interamoués, des FDLR, etc., que le gouvernement ne peut pas maîtriser. Et là, le vrai problème, c'est qu'il faut refaire l'État. Il faut repasser l'État. Quelqu'un m'a parlé du Brésil.
Du Brésil, oui. Pourquoi l'État du Brésil?
Le Brésil, c'est un État multinational.
Avec la forêt amazonienne, mais aujourd'hui, ce n'est pas autant qu'on va
dire. La forêt, le Brésil n'a pas la même nature que le Congo. Le Congo a été créé par un homme. Le Congo est un état de création factice. Les grands puissances sont réunis pour créer le Congo. Mais le Brésil n'a pas toutes les mêmes nations-là. Écoutez, dans l'indépendance du Brésil, ils ont choisi une forme de l'État qui met tout le monde ensemble, la forme fédérale. C'est cette forme fédérale qui donne l'autonomie aux entités. Et lorsque les pays nationaux sont autogérés, ça crée quand même, ça diminue les mécontentements.
Mais c'est ce qui est plus curieux. À la première heure de l'indépendance, les politiciens ont réclamé le fédéralisme à l'RDC. Ça nous a amené là où, ça nous a conduit là où tout le monde le sait. Après, on a vécu pendant longtemps, en tout cas pendant à plus de 42 ans, dans l'unité, la forme de l'unité nationale. Et voilà que ça fait encore des mécontents pour que la FDL arrive en 97, 98. Il y a encore la guerre qui éclate. Finalement, on est dans un cercle vicieux. On tourne en rond malgré les formes de l'État.
Je vous ai dit tantôt que l'histoire du Congo se répétait. C'est ça notre malheur aussi.
Ouais.
L'histoire du Congo se répétait. Il faudrait réfléchir rationnellement. Le vrai problème du Congo aujourd'hui, en termes de solutions, excusez-moi d'aller vite.
Il faut
dépasser l'État unitaire centralisé. Il faut dépasser l'unitarisme centralisé. Il faut dépasser la conception de la nation unificatrice. Il faut penser autrement. L'État unitaire a échoué.
Le fédéralisme.
Il faut tenter autre chose. Moi, je pense que, comme début de solution, le Congo peut essayer avec le fédéralisme. Construire une typologie de gouvernement par rapport aux aspirations de la base. Vous savez, j'étais en train de réfléchir aussi sur un élément important. Un mouillage sur des bandoulous, à point de commun avec un motetela.
Rien du tout, c'est le jour et la nuit.
Très bien. Un moupéné de Gungu, à quoi avec un Mumbala, de bandoulous, rien.
Qu'est-ce que vous comprenez ça? Dépassons la passion, réfléchissons, posons les nouvelles bases qui puissent nous empêcher de la balkanisation. Retenez, si nous ne faisons rien, la balkanisation est éluctable.
Voilà, Sylvain Guétabounia et Trésor Académie sont déjà en ligne. Je crois qu'on va boucler ce débat avec les deux les auditeurs qui ont l'honneur. Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour.
Sylvain, vous êtes à Bounia. Moi aussi, je voudrais saluer tous vos auditeurs.
Oui, rapidement, Sylvain, donner des indices et proposer des solutions. Rapidement, Sylvain. Vous avez 45 secondes.
Merci. Je ne crois pas que les 45 secondes vont permettre que je dise tout ce que j'avais.
Bon, commencez par donner des indices.
Mais toutefois, beaucoup de gens étaient d'accord de parler du terme balkanisation au Congo. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'à l'heure actuelle, il faut parler de la balkanisation. Si nous étions tous à l'université de recherche en ce qui concerne la situation du pays, il y aurait beaucoup d'hypothèses. Et mon hypothèse serait que le vrai problème de la RDC, c'est la mauvaise gouvernance. L'Église, puisque c'est ça le thème, qui a pris le temps de défendre la République pour dire que non à la balkanisation, selon leur terme, je crois que ce n'est pas leur travail. Le travail qui va mener ce pays à une unité, soit à une bonne gestion politique, c'est d'abord installer les mécanismes de la bonne gouvernance. Et c'est ce qui a manqué dans ce pays. Moi, je considère tout simplement qu'il y a la manifestation et la concrétisation de la fissure socio-anthropologique politique de ce gouvernement de l'État congolais. Et donc, pour tenir le cas, moi, je pense qu'il faut que l'on ait un pas sérieux de réflexion. Je ne crois même pas que parole aux auditeurs, cette question que j'aime beaucoup va résoudre ces grands problèmes que les gens identifient de la balkanisation.
Non, nous en disons pour la parole, okay. Nous accordons la parole aux auditeurs. Hein. Donc, vous avez quand même droit au chapitre, pour réfléchir aussi. Parce que vous êtes congolais, n'est-ce pas, Sylvain?
Oui, exactement.
Voilà, il faut réfléchir. Pour les questions d'actualité, il faut réfléchir. Donc, nous avons tous, selon la Constitution, la liberté d'expression.
Exactement. Je préfère plutôt, si nous sommes sérieux et que nous aimons ce pays et que nous voulons que ce pays avance, il faut que les fils de ce pays s'assoient et pour réfléchir correctement. Je ne parle pas ici parce que les politiciens, puisque je le suis, mais scientifiquement, j'aimerais qu'on y aille dans un colloque national où on définit les vrais problèmes de ce pays, les problèmes profonds de la société congolaise, et c'est le tour des solutions pour commencer à parler de
balkanisation. Merci Sylvain, colloque national, conférence nationale, mais je crois qu'il y a eu quand même des assises dans ce pays, et nous sommes même allés chez les pays voisins, les pays amis qui ont organisé, et pour qu'on arrive aujourd'hui, ne fût-ce que dans un processus démocratique, voilà, et ici peut-être, ou peut-être il y a des institutions, ici des élections démocratiques. Merci Sylvain d'avoir parlé des colloques nationales, c'est vrai, nous allons voir si c'est le cas aussi pour Trésor, qui est académique, qui proposerait une solution pour mettre un frein à ces menaces de balkanisation. Trésor, vous êtes à Calémy, en 45 secondes. Bonjour Trésor.
Bonjour Monsieur Gier.
Voilà.
Merci beaucoup pour m'avoir.
Oui, on va continuer avec vous.
Je dois commencer par les indices, étant donné que le temps qui m'est parti est très minime. Comme premier indice, je voudrais dire que la guerre intermittente par des forces négatives rwandaises, ça c'est le premier indice. Le deuxième, l'exploitation illégale des matières premières, la présence des étrangers. Oui, pardon, je vais répondre.
Voilà. Voilà, Trésor. Donc, vous dites l'exploitation minière, la présence des étrangers de l'armée, comme l'ont dit aussi vos prédécesseurs. Voilà. Voilà, merci Trésor. Bon, on ne pourra pas évoluer avec vous parce que là, vous sortez vraiment entrecoupé. Nous accordons la parole pour la conclusion à notre invité, Tazi, qui va conclure. Quelles sont les pistes et solutions pour mettre fin à ces menaces de balkanisation par rapport déjà aux indices évoqués par les uns et les autres?
Tout à fait. Premièrement, il faut aller sur certaines évidences. Nous avons les faits sur le terrain. Première solution, il y a des gens qui pensent que c'est irrationnel. Ils ont même proposé la construction d'un grand mur entre le Rwanda
et les
Kivu comme solution. Il y en a d'autres qui ont parlé de l'armée. Sur le plan interne, il nous faut une véritable armée. Écoutez,
je ne sais pas si l'armée congolaise a gagné une seule guerre, une seule de ses propres guerres seule, sans aide extérieure.
Non, vers les années 90, il y a notre armée qui est allée intervenir au Rwanda pour un problème.
Non, ça, c'est pas fini.
C'est pas une guerre, mais c'est allée. Vraiment, ça nous sent qu'on a utilisé notre
armée. Il nous faut recruter sur base de provinces, faire en sorte que chaque province donne un nombre particulier de jeunes sous les drapeaux, les former, et ainsi de suite. Deuxième élément sur le plan diplomatique.
L'international, voilà.
Sur le plan international, sur le plan diplomatique uniquement. Écoute, on ne peut pas avoir une bonne diplomatie si on n'a pas une bonne politique étrangère. Parce que la diplomatie est une conséquence, est un résultat de la politique étrangère. Alors, il faut impérativement, moi j'appelle ça, il faut impérativement avoir une politique étrangère de responsabilité d'anticipation.
Voilà, il y a beaucoup à dire. Cette question précise que
nous devons vraiment
faire avis. Merci à vous, M. Tavi, Matma, Julia, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes chef des travaux et doctorant en relations internationales à l'Université de Kinshasa. Et merci également à vous toutes et à vous tous qui avez suivi et participé avec attention soutenue à cet échange. Merci aussi à Tissé Poutou, William Lungamba et Comtesse Matouba pour la réalisation de cette émission qui vous a été présentée par J.R. Mungembo sous la supervision de Nicole Gata. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Demain, Parole aux auditeurs consacrera 57 minutes d'échange et partage autour de la situation humanitaire en RDC, dans la partie Est où plusieurs groupes armés sont actifs, forcément ainsi l'insécurité dans la région. La situation humanitaire est très préoccupante, selon les humanitaires opérationnels sur le terrain. Dans la partie Ouest du pays, la situation humanitaire n'est pas du tout plausible non plus. À l'Équateur notamment, signalons que le nombre des rapatriés congolais dépasse la barre de 10 000. Et selon les rapports mondiaux 2012 rendus publics le week-end dernier par l'UNICEF, les besoins d'assistance humanitaire en RDC sont multiplié. Selon vous, quelle peut être la solution idéale à ce problème humanitaire qui se pose avec l'activité en RDC? C'est cette question qui sera effectivement débattue demain dans Parole aux auditeurs. Inscrivez-vous déjà et à très bientôt.